Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et au sommaire de l'édition de 23h, le représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères, est à Luanda, la capitale de l'Angola. Ahmed Attaf prendra part demain et après-demain au 7e sommet de coopération et de partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne. L'expérience algérienne, les réformes engagées pour une diversification de son économie et pour une attractivité des investissements présentées au 21e sommet des Nations Unies pour le développement industriel en Arabie Saoudite. Le projet de ligne ferroviaire minière Tindouf-Béchar avance à cadence soutenue. Il devra être livré janvier prochain. Les nouvelles technologies sont appelées à contribution pour l'exploitation des ressources minières du pays. L'Algérie réitère au sommet du G20 son engagement à renforcer le mécanisme de la prévention des risques majeurs sur le continent. Le sommet a pris fin aujourd'hui. Dans le dossier sahraoui, la conférence européenne de coordination de soutien au peuple sahraoui appelle l'ONU à veiller à ce qu'aucune tentative d'annexion du Sahara occidental ne soit légitimée. L'attaque de l'armée d'occupation sioniste contre la banlieue sud de Beyrouth ce dimanche constitue une nouvelle preuve que l'entité sioniste ne tient pas compte des appels répétés à cesser ses agressions contre le Liban, affirmation du président libanais Joseph Aoun. Et puis en sport football, l'USMA d'Alger prend le meilleur sur San Pedro de Côte d'Ivoire. Score final de 2-1, rencontre pour le compte de la première journée de la phase de poule de la Coupe de la CAF. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Représentant le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères est arrivé ce dimanche à Luanda, en Angola. Ahmed Attaf prendra part demain et après-demain au 7e sommet de coopération et de partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne. Le sommet examinera les questions prioritaires pour les deux parties ayant trait à la paix, à la sécurité, au développement, à la migration et à la gouvernance. Il s'adonnera également une évaluation du partenariat en place entre l'Afrique et l'Europe. 21e sommet des Nations Unies pour le développement industriel en Arabie Saoudite. L'Algérie y est représentée par le ministre des Hydrocarbures et des Mines. L'occasion pour Mohamed Arqab de présenter l'expérience algérienne, les réformes engagées pour une diversification de son économie, une plus grande attractivité des investissements. L'occasion également pour réitérer le soutien de l'Algérie au groupe des 77, la Chine ainsi qu'au groupe africain et arabe Hakima Kamal.
L'Algérie valorise ses progrès en matière d'industrie durable au sommet mondial de l'industrie à Riyad. Arqab a souligné que l'Algérie a engagé d'importantes réformes accompagnées de réalisations concrètes qui visent à inscrire durablement son développement industriel dans une approche responsable, respectueuse de l'environnement. Nabil Jumaa, économiste.
L'intervention de l'Algérie au sommet mondial de l'industrie à Riyad traduit une volonté assumée, repositionner son industrie dans un contexte international où la durabilité la transition énergétique deviennent des critères déterminants. Hydrocarbures, mines, énergie propre et industrie minière sont précisément les secteurs où l'Algérie cherche à prouver qu'elle n'est plus figée dans un modèle rentier.
L'Algérie vise à élargir ses partenariats internationaux, mobiliser davantage de financements, favoriser le transfert de technologies pour soutenir sa trajectoire d'industrialisation durable. Dali Yahia, experte en développement durable.
L'objectif de l'Algérie est clair, attirer des investisseurs internationaux engagés dans la transition énergétique en alignant son développement industriel sur les objectifs de l'accord de Paris. Pour ce qui est de ses besoins technologiques attendus, de ses partenaires étrangers, le transfert de technologies pour la production d'hydrogène vert, l'efficacité énergétique et l'économie circulaire.
Des rencontres bilatérales de haut niveau permettront de consolider cette dynamique, en particulier autour de projets destinés à promouvoir le développement durable dans les industries extractives qui constituent la base des industries de transformation.
Et transition toute faite justement pour évoquer le projet de la ligne ferroviaire minière Tindouf-Béchar. Le ministre des Travaux publics était sur le terrain aujourd'hui pour le suivi notamment du tronçon Om El Asel dans la wilaya de Tindouf et Béchar sur 440 km des 950 prévus pour le projet. Abdelkader Jelawi a affiché sa satisfaction pour les avancées enregistrées sur ce chantier dont la réception est prévue d'ailleurs pour le mois de janvier prochain. Ben Shafa Ben Harbia, le directeur du projet.
Nous sommes prêts à livrer ce projet à la fin de l'année. Tous les cadres, toutes les institutions et toutes les équipes sont mobilisées pour achever ce projet. Nous confirmons et nous réaffirmons que nous sommes dans les derniers retours sur certains points auxquels nous avons donné un nouvel élan. Nous avons achevé les travaux de plus de 25 ouvrages d'art. Ces ouvrages sont désormais répartis sur l'ensemble du projet et sont au nombre de 45, sur une distance de 25 km. Il reste 3 points à finaliser et d'ici une semaine, nous aurons terminé tous les travaux restants.
L'extraction et la transformation du fer de Garajbilat, un projet stratégique parmi une série qui permet au secteur minier de se développer. Les nouvelles technologies sont appelées à contribution pour la réussite de ces projets. La secrétaire d'État aux mines, Karima Tafel, en parle à Hamid Belkassam.
C'est très important pour le secteur des mines. Nous avons lancé plusieurs projets structurants. Donc, nous avons lancé le développement du fer à Garajbilat, le développement et la valorisation des phosphates à l'est du pays, le développement du plomb zinc au niveau de Tala Hamza Wadamizur dans la wilaya de Béjaïa. Et par rapport donc à tous ces projets, d'autres projets tels que le développement de l'or, de la bentonite, de la barite, de la dolomite, nous avons besoin de technologies et de procédés innovants.
Faire pour rappel s'exprimer à l'UACHB lors d'une rencontre internationale sur la géologie. Les experts ont mis d'ailleurs l'accent sur l'impératif d'une cartographie des ressources minières du pays. Le professeur Mohamed Hicham Qara, le président de l'Académie des sciences et technologies, il est au micro de Hajar Mesoudi.
Les ressources minières sont très importantes actuellement parce que les technologies modernes se basent sur ces ressources. C'est pour cette raison que nous avons donc organisé cette journée pour attirer l'attention sur la nécessité de poursuivre les travaux de recherche pour connaître, cartographier et valoriser ces ressources. Les retombées sont certainement économiques. Les industries modernes, enfin récentes, sont basées sur les ressources minières dont l'Algérie dispose.
Et à propos d'économie, le dernier numéro de la revue Diplomatia Economica Italiana du ministère italien des Affaires étrangères et de la coopération internationale a consacré dans son dernier numéro un grand dossier à l'économie algérienne, mettant en lumière la dynamique de diversification économique engagée dans le pays et l'intérêt croissant des entreprises italiennes pour le marché national. La publication s'est attardée sur les progrès notables, je cite, réalisés par l'Algérie en matière de développement économique et humain grâce aux politiques sociales et à l'investissement dans les infrastructures. Le document a mis en avant également l'attractivité du marché algérien pour les entreprises italiennes, y compris les petites et moyennes entreprises, notamment dans le secteur de l'agriculture, des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, des industries agroalimentaires, de la transformation, de l'industrie pharmaceutique, de la mécanique et de l'industrie automobile. La publication a également mis en lumière les importantes potentialités des énergies renouvelables, rappelant que l'Algérie dispose de l'un des plus grands potentiels solaires au monde. Le ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, Kamal Zik, a reçu ce dimanche une délégation du Fonds monétaire international dans le cadre des consultations annuelles menées par le FMI avec l'Algérie. Lors de cette rencontre tenue au siège du ministère, en présence des cadres des deux parties, ils ont procédé à un échange de vues sur les mécanismes de soutien aux exportations et le renforcement du positionnement de l'Algérie sur les marchés internationaux. La délégation du FMI a été reçue également par la ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché national. Fin du sommet du G20, le premier abrité par l'Afrique. Le continent a occupé une grande place dans les discussions. L'Algérie y a plaidé pour l'effacement de la dette des pays africains plus pauvres dans le message du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, délivré par son représentant, le premier ministre Sifir Liyeb. Depuis Johannesburg, on retrouve l'envoyé spécial de la radio nationale, Samar Hamadi.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa vient de rappeler avec force l'esprit qui a animé ces deux journées intenses. Accélérer le progrès ensemble, affronter les défis mondiaux grâce au partenariat et garantir que personne ne soit laissé pour compte. Un message qui marque profondément cette première édition du G20 organisée sur le continent africain. Le ministre sud-africain des Finances, Pacto, affirme « La question africaine est désormais pleinement inscrite à l'ordre du jour international. Il assure que les mécanismes de suivi sont engagés, que les accords conclus seront évalués et que l'Afrique continuera d'avancer en s'appuyant sur une vision multilatérale plus juste.
La question africaine est désormais solidement inscrite à l'ordre du jour. Nous suivons les mécanismes de mise en œuvre tout en évaluant les progrès réalisés en fonction des actions engagées par les États. Au-delà de ces démarches, nous suivons aussi l'avancement des nombreux accords conclus avec différents pays sur la base des principes adoptés ici, ainsi que leur impact sur le système multilatéral. Ces positions seront proposées aux Nations Unies sous forme de résolutions. La solution est portée sur plusieurs plateformes multilatérales.
Le Premier ministre Séphir Liyeb, représentant le président Abdelmadjid Tebboune, a délivré un message fort lors du sommet de Johannesburg, mettant en avant la solidarité internationale, la réforme de la gouvernance économique mondiale et l'allègement de la dette pour soutenir les pays les plus vulnérables. Et c'est dans cette atmosphère d'unité et de satisfaction générale que Cyril Ramaphosa a officiellement transféré la présidence du G20 aux États-Unis. Une passation qui ouvre un nouveau cycle avec de fortes attentes quant à la continuité des engagements pris en Afrique du Sud. Samar Hamedi, Johannesburg, Radio Chaîne 3.
Et nous restons en Afrique pour évoquer le dossier sahraoui. La conférence européenne de coordination de soutien au peuple sahraoui a appelé l'ONU à veiller à ce que qu'aucune tentative d'annexion du Sahara occidental ne soit légitimée, mettant l'accent sur l'importance de réaffirmer clairement le cadre juridique du processus de décolonisation de ce territoire. Le COCO qui a rappelé dans ce contexte que conformément à l'avis consultatif de la Cour internationale de justice de 1975 et aux résolutions successives de l'ONU, le Sahara occidental demeure un territoire non autonome dont le peuple a droit à un référendum d'autodétermination. Évoquant la résolution 2797 du Conseil de sécurité concernant le Sahara occidental adoptée le 31 octobre dernier, le COCO a précisé cette résolution rappelle à bon escient les résolutions antérieures qui réaffirment le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination dans le cadre d'un processus de décolonisation encore inachevé. Elle a dénoncé à ce titre les interprétations trompeuses diffusées par les médias marocains qui présentent cette résolution comme une reconnaissance du pseudo plan d'autonomie ou de souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Direction le Proche-Orient, le président libanais Joseph Aoun a déclaré que l'attaque de l'armée d'occupation sioniste contre la banlieue sud de Beyrouth ce dimanche, coïncidant d'ailleurs avec l'anniversaire de l'indépendance, constitue une nouvelle preuve que l'entité sioniste ne tient pas compte des appels répétés à cesser ses agressions contre le Liban. Une attaque qui a coûté, je vous le rappelle, la vie à Haytham al-Tabataya, le plus haut responsable du Hezbollah, a tombé en martyr depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu il y a de cela un an. Le président libanais Joseph Aoun exhorte la communauté internationale à assumer ses responsabilités, une énième violation de la légalité internationale selon Faiza Mokadem, vice-présidente de l'Union internationale des avocats. Elle répond depuis la capitale libanaise, Ali Esterghini.
Évidemment, c'est des effets récurrents. Tous les jours, ces violations continuent de menacer le sud du Liban. Et ce n'est pas la première fois. Et c'est pas un moyen de paix. Parce que si on demande de remettre les armes de Hezbollah, il faut respecter cette souveraineté, de ne pas menacer tous les jours. Mais c'est une entité sioniste, usurpatrice, qui pratique la violence et la brutalité de toutes les sortes. D'autre part, l'envoyé américain spécial, Monsieur Barak, qui est le chargé des responsabilité de négocier et de comprendre afin de désarmer le Hezbollah. Les attaques et les violations dans le sud du Liban s'en suivent comme ils s'intensifient et c'est une menace directe, si vous voulez, afin d'accélérer ce processus sans aucune garantie de l'autre partie.
Même scénario à Gaza, l'entité sioniste n'a eu de cesse de violer les termes de l'accord de paix en bombardant la population et en étendant son contrôle sur des zones qui ne devant pas l'être, violation qui ne semble avoir écho en Occident. Le représentant de la communauté palestinienne à Bruxelles, Hamadan Damiri, est joint par Linda Hamad.
Les Israéliens violent cet accord. Ils continuent à assassiner des Palestiniens dans la bande de Gaza, parfois même en bombardant, je dirais, certaines zones, certains quartiers, en détruisant aussi des maisons des Palestiniens. Cette pratique israélienne, c'est la même pratique qu'ils font depuis la signature au sud du Liban aussi d'un accord de cessez-le-feu. Ils veulent remettre l'exemple libanais sur la bande de Gaza. Moi, je pense que le rôle, à part de ceux qui ont joué d'intermédiaire dans l'accord, surtout les États-Unis, ils doivent obliger Israël a respecté l'accord et ce qu'il y a dans l'accord, pas seulement les combats, mais aussi le sujet qui concerne l'entrée de l'aide alimentaire, parce qu'on est très, très, très loin de la quantité qui a été envisagée au début. De prendre leurs responsabilités, sinon on va glisser petit à petit vers la reprise des combats dans la bande de Gaza.
Et au moins 921 colons sionistes ont pris d'assaut ce dimanche l'esplanade de la mosquée d'Al-Aqsa dans la ville d'El-Quds, occupée sous la protection de la police de l'occupation sioniste. Retour chez nous. En raison des mauvaises conditions météorologiques prévues pour cette semaine, l'entreprise maritime de transport des voyageurs revoit son programme. La traversée Alger-Marseille, prévue initialement pour demain, a été reportée à mardi à partir de midi. La traversée Marseille-Skigda, reprogrammée également pour le 27 au lieu de demain lundi pour pour d'autres précisions et pour tout le programme, il faut bien entendu se rapprocher des agences de l'entreprise nationale. Le ministère du Commerce extérieur et de la promotion des exportations a affirmé ce dimanche dans un communiqué que l'autorisation exceptionnelle relative aux opérations de domiciliation bancaire concernant les frais de fret des marchandises importées vise à faciliter les opérations de fret. Le ministère du Commerce extérieur tient à apporter des précisions que ce qui a été mentionné dans le communiqué de l'Association des banques et des établissements financiers, ABEF, concernant les opérations de domiciliation bancaire relatives à l'autorisation exceptionnelle délivrée par les services du ministère porte uniquement sur les frais de fret des opérations d'importation en cours jusqu'au 31 décembre 2025. Afin de faciliter les opérations, les banques commerciales sont tenues de transmettre au service du ministère le bilan de la domiciliation bancaire des frais de fret durant la même période concernant toutes les autres opérations d'importation, que ce soit l'activité d'importation dans le domaine de la gestion ou de l'équipement ou la revente en l'état, elle demeure soumise au programme prévisionnel. Démantèlement d'un réseau criminel international de saisie de drogue et saisie de drogue d'environ un quintal de kiff traité en provenance du Maroc, c'est ce qu'a indiqué ce dimanche un communiqué de la direction générale de la Sûreté nationale, une tentative déjouée entre les wilayas d'Alger et de Tipaza. Par ailleurs, les services de police d'Oran ont récemment démantelé deux réseaux criminels transfrontaliers impliqués dans le trafic de drogue dure et de psychotropes. À la SAFEX Pan-Maritime, s'est ouvert aujourd'hui la deuxième édition du salon Tessil Facilitation, un événement économique dédié au crédit, leasing et investissement. Durant 4 jours, les porteurs de projets et chefs d'entreprise, mais aussi simples visiteurs, peuvent y trouver une panoplie de solutions à leurs problématiques financières et de prestations d'aide à l'investissement. Le compte rendu de Hanan Saïsi.
Une cinquantaine d'exposants dans différents secteurs d'activité mobilisés pour ce rendez-vous avec les porteurs de projets. Un rendez-vous qui se veut un carrefour d'échanges et de partenariats. Rima Zahir, chef de l'entreprise organisatrice.
Et pour promouvoir les opportunités de financement entre les secteurs clés, pour participer à l'évolution de l'économie nationale, pour aider aussi à investir dans différents secteurs tels que le tourisme, l'agriculture, le logement, le BTP, etc. Il y a aussi le métier de dentiste, médecin, ceux qui veulent se lancer. On a fait aussi une exposition pour le leasing automobile. Il y a plusieurs groupes technologiques pour le financement des data centers, les logiciels, gros projets technologiques.
Le secteur de l'agriculture qui a fait son entrée dans les garanties de l'État à travers la Caisse de garantie des crédits d'investissement. La CGCI expose cette opportunité de garantie pour les investisseurs agricoles. Radia Assio, conseiller du directeur général de la CGCI.
En 2025, ce dispositif a été élargi à toutes les banques de l'État, les 6 banques publiques. Au niveau de la BADR uniquement, nous avons un engagement de 149 milliards de dinars. C'est quand même relativement important. Il y a une certaine particularité qui touche ce secteur, c'est que les FLEH ne sont pas encadrés sur le plan réglementaire. Le FLEH n'est pas tenu par une fiscalité. Il peut ne pas aussi adhérer à la CNAS ou à la CASNOS. Alors le fonds intervient pour faire face à ce genre de devis juridique.
Le salon inclut des espaces de networking entre les porteurs de projets et les institutions financières et entreprises.
Et pour rappel, les porteurs de projets ont jusqu'à mardi 25 pour s'enquérir davantage sur les dispositions de facilitation au financement. Et nous arrivons à notre page sport avec nous ce soir, Lotfi Benidir. Bonsoir Lotfi.
Bonsoir. Oui.
On commence par du football. Bonne entame pour l'USMA d'Alger en phase de poule de la Coupe de la CAF.
Absolument, l'USMA s'est imposé ce soir 3-2 face à la formation ivoirienne FC Saint-Pedro. Je rappelle que le premier but a été inscrit à la 16e minute de jeu par Recha avant que Alilet, le capitaine de l'USM Alger, ne double la mise. Le défenseur de l'USM Alger ne double la mise à la 60e minutes de jeu. Et puis au retour des vestiaires, c'est la formation ivoirienne par l'intermédiaire de Draman Kamagaté qui a marqué à la 64e minute de jeu, qui a réduit le score. Et puis Ardouani, le capitaine de l'USM Alger, a marqué le 3e but à la 81e minute de jeu. Et puis l'USMA a encaissé ce but à la 6e minute du temps additionnel. Karam Moukou, sans grande conséquence puisque l'USMA s'impose 3-2 et occupe la première place du groupe A. Et je rappelle également que dans les autres d'autres résultats. La formation égyptienne, notamment la formation du Zamalek, s'est imposée ce soir 1-0 face à Zesco United et occupe également la première place du groupe D. Et lors de la prochaine sortie, l'USMA affrontera la formation de Safi en déplacement.
Et concernant la sélection nationale A', Majid Bougara a dévoilé aujourd'hui la liste des joueurs retenus pour la prochaine Coupe arabe.
Absolument, une liste marquée par la convocation du milieu offensif Yassine Brahimi, lui qui n'a pas été appelé en sélection A' depuis la dernière édition de 2021, la dernière édition de Coupe arabe également, ainsi que deux attaquants, Yassine Benzia et Adem Ounes. Par ailleurs, comme des éléments ont été bien évidemment éjectés, tels que Abdelrahman Mazian, Mohamed Amin Madani, Riyad Boudbouz et Ayman Mehyous, qui n'ont pas été retenus par Majid Bougara. Je rappelle que la Coupe arabe se jouera au Qatar, à Doha, entre le 1er et le 18 décembre prochain.
Et on termine par du judo. L'Algérien Abdeslam Belbelhout décroche la médaille d'or à l'Open africain de Yaoundé.
Et c'était en bas, Abdeslam Belbelhout a battu le Marocain Lies Jacob en finale des moins de 73 kilos versé dans la poule D. Belbelhout a été exempté du premier tour. Lors du deuxième tour, il a surclassé le Dominicain Marc Gerrado avant d'enchaîner en quart de finale avec le Camerounais Ebenezer Jonal et Ngonel Miano en demi-finale. Et puis donc, ce qui permet en tous les cas à l'Algérien de remporter la médaille d'or, médaille de bronze pour l'Algérien. L'autre Algérien, Othman Arbaoui, chez les moins de 100 kilos après sa victoire contre le Camerounais Raoul Ndjima.
Merci à vous, Lotfi Benidia, pour toutes ces précisions. C'était là la dernière information de cette édition, une édition réalisée par Zine Khawa. Dans quelques instants, les couleurs du ciel avec Leila Djibour. Très bonne écoute.